Chapitre 16. Lorsqu'il arriva chez Kennerly, une étrange obscurité avait voilé l'horizon par le nord, et il savait que c'était de la poussière. Au-dessus de Tull planait toujours un silence de mort. Kennerly l'attendait sur l'estrade jonchée de paille qui tenait lieu de plancher à sa grange. « Sur le départ ? » demanda-t-il avec un rictus abject à l'intention du pistolero. « En effet, pas avant l'orage. Je vais le devancer. Le vent va plus vite que n'importe quel homme sur une mule. À découvert, il peut vous tuer. «
Je veux récupérer ma mule, » dit simplement le pistolero.
« Bien sûr !»
Mais Kennerly ne bougea pas. Il se tint là comme s'il cherchait quelque chose à ajouter, arborant son rictus servile et poisseux de haine. De ses yeux papillotants, il fixait un point au-dessus de l'épaule du pistolero. Le pistolero fit un pas de côté et pivota, et la lourde bûche que brandissait Soubi siffla dans l'air, ne faisant que lui effleurer le coude. Emportée par son élan, elle lâcha prise et la bûche alla s'écraser sur le plancher dans un grand fracas. Dans les hauteurs obscures du fenil, des hirondelles s'envolèrent, projetant leur ombre fugitive. La fille le dévisagea d'un air bovin. Sous sa chemise délavée, ses seins jaillissaient avec l'opulence magnifique de fruits trop mûrs. Avec une lenteur qui rappelait un rêve, son pouce alla chercher le refuge de sa bouche. Le pistolero se tourna de nouveau vers Kennerly. Son rictus s'était élargi. Sa peau avait pris une teinte jaune cireuse et ses yeux roulaient dans leurs orbites.
« Je... » commença-t-il en un murmure pâteux, mais il se trouva incapable de poursuivre.
« La mule !» insista doucement le pistolero.
« Bien sûr, bien sûr, bien sûr. » chuchota Kennerly, le rictus teinté d'incrédulité, se demandant tout bonnement comment il pouvait être encore en vie. Il alla chercher l'animal d'un pas traînant. Le pistolero se décala sur le côté, de sorte à pouvoir garder l'homme dans son champ de mire. Le palefrenier ramena la mule et lui en tendit la bride.
« Rentre t'occuper de ta sœur, » lança-t-il à Soubi.
Soubi rejeta la tête en arrière et resta plantée où elle était. Le pistolero les abandonna, là, sur le sol jonché de fientes, à se dévisager d'un bout à l'autre de la grange, lui avec son rictus malsain, elle avec un air de défi stupide et apathique. Dehors, la chaleur cognait toujours comme un marteau. Chapitre 17. Il mena la mule au milieu de la rue, soulevant de petits jets de poussière du bout de ses bottes. Ses outres, gonflées d'eau, étaient attachées sur le dos de l'animal. Il fit une halte au bar, mais Ali n'y était pas. La salle était déserte, claquemurée en prévision de l'orage, mais encore sale de la soirée de la veille. Tout puait la bière aigre. Il remplit son sac fourre-tout de farine de maïs grillé et de la moitié de la pièce de viande crue dans le garde-manger. Il laissa 4 pièces d'or qu'il empila sur le comptoir en bois. Ali ne descendit pas. Le piano de Cheb lui adressa un adieu silencieux, souriant de ses dents jaunes. Il ressortit dans la rue et ressangla son sac sur le dos de la mule. Il se sentait la gorge serrée. Peut-être pouvait-il encore échapper au guet-apens, mais ses chances étaient minces. Après tout, il était l'intrus. Il passa devant les bâtiments aux volets clos, suspendus dans la tente. Il sentait glisser sur lui les regards qui s'immisçaient dans les fentes et les fissures. L'homme en noir avait joué à Dieu, à Tull. Il avait parlé d'un enfant de roi, d'un prince rouge. S'agissait-il d'une gigantesque pantalonnade ou d'une réelle cause de désespoir? C'était là une question non négligeable. Il entendit derrière lui un hurlement suraigu et soudain les portes s'ouvrirent à toute volée. Des formes plongèrent en avant, le piège se refermait, des hommes en chemise, des hommes en salopette sale, des femmes en pantalon ou en robe défraîchie, et même des enfants accrochés au basque de leurs parents, et dans chaque main, un bâton ou un couteau. Sa réaction fut automatique, instantanée, innée. Il pivota sur les talons, cependant que ses mains extirpaient les pistolets de leurs étuis, et le contact des lourdes crosses dans ses mains le rassura. C'était Ali. Forcément, ce serait Ali qui venait vers lui, le visage tordu, sa cicatrice violette et diabolique sous la lumière déclinante. Il vit qu'on la retenait en otage. Derrière son épaule apparut la figure horrible et grimaçante de Cheb, comme le démon familier d'une sorcière. Elle était son bouclier et son offrande. Le pistolero vit tout cela avec une clarté et une limpidité totale, dans cette lumière figée et immortelle, et ce calme stérile, et il l'entendit supplier.
« Tue-moi, Roland, tue-moi. J'ai dit le mot, 19, je l'ai dit, et il m'a raconté, et je ne peux pas le supporter. »
Ses mains étaient entraînées à lui donner ce qu'elle demandait. Il était le dernier de son espèce, et sa bouche n'était pas seule à maîtriser le haut-parler. Les pistolets firent résonner dans l'air leur mélodie atonale et sourde. À la deuxième salve, la mâchoire inférieure d'Ali s'affaissa, et son corps glissa à terre. La dernière expression qu'il lut sur son visage pouvait être de la gratitude. La tête de Cheb bascula en arrière. Ils roulèrent tous les deux dans la poussière.
Ils sont allés au pays de 19, se dit-il. Dieu sait ce qu'ils y trouveront.
Des gourdins volèrent, pleuvant sur lui. Il chancela, parant les coups. Un des bâtons ornés d'un clou planté de guingois lui ouvrit le bras. Le sang se mit à couler. Un homme avec une barbe de plusieurs jours, les aisselles trempées de sueur, lui plongea dessus un couteau de cuisine dans la main. Le pistolero le tua d'une balle et l'homme s'abattit dans la rue. Quand son menton heurta le sol, son dentier sauta dans la poussière, dégoulinant de bave dans un sourire aveugle.
« Satan !» hurlait quelqu'un. « Le maudit ! Abattez-le ! Le truc !» cria une autre voix.
Les bâtons pleuvaient toujours. Un couteau lui heurta la botte et rebondit.
« L'intrus ! L'Antichrist !»
Il se fraya un chemin au pistolet jusqu'à se retrouver au milieu d'eux, courant devant les corps qui tombaient, ses mains choisissant les cibles avec facilité et une précision effrayante. Deux hommes et une femme s'effondrèrent et il s'engouffra dans la faille qu'ils lui ouvrirent. Il les mena en une parade effrénée qui traversa la rue en direction de la boutique de l'épicier barbier, en face de chez Cheb. Il sauta sur la passerelle de planches, se retourna, et vida ce qui lui restait de munitions sur la foule qui chargeait. Derrière eux, Cheb, Ali et les autres gisaient sur le sol, crucifiés. Pas une seconde ils n'hésitèrent et ne faiblirent, bien que chacun de ces tirs fît mouche, bien qu'ils n'eussent probablement jamais vu un pistolet de leur vie. Ils reculaient avec des feintes de danseurs pour éviter les missiles qui volaient. Ils rechargeaient en pleine course avec une rapidité qui était devenue une seconde nature pour ses doigts à force d'entraînement. Jamais inactifs, ils allaient et venaient entre ceinturons et barillets. La foule monta à son tour sur la passerelle et il entra dans l'épicerie, poussant de toutes ses forces la porte derrière lui. La grande vitrine sur la droite explosa vers l'intérieur et trois hommes se précipitèrent. Leur visage reflétait un zèle totalement impassible et dans leurs yeux brûlait un feu terne. Il les abattit tous, ainsi que les deux qui suivaient. Ils tombèrent à cheval sur la vitre, empalés sur les longues gerbes de verre, bouchant le passage. La porte céda dans un grand fracas et branla sous leur poids. C'est alors qu'il entendit sa voix, à elle.
« Le tueur ! Vos âmes ! Le pied fourchu !»
La porte se dégonda et tomba tout droit à l'intérieur dans un claquement plat. Une bouffée de poussière s'éleva du sol. Des hommes, des femmes et des enfants foncèrent sur lui. Les crachats et les bûches volèrent. Il vida ses deux armes et ses assaillants tombèrent comme des mouches. Il recula dans la boutique en versant un baril de farine qu'il fit rouler vers eux. Il leur lança une casserole d'eau bouillante dans laquelle trempaient deux rasoirs à main ébréchés. Ils avançaient toujours, avec des hurlements frénétiques et incohérents. Dans la foule, Sylvia Pittston les exhortait à l'aveugle de sa voix ondulante. Elle enfournait les balles dans les chambres brûlantes, dans les arômes de mousse à raser, dans l'odeur aussi de sa propre chair, des cales au bout des doigts qui grillaient. Il sortit par la porte de derrière et se retrouva dans le passage couvert. La steppe rase était à présent dans son dos, reniant imperturbablement cette ville tapie en son sein crasseux. Trois hommes déboulèrent au coin avec de larges sourires de traîtres. Ils le virent, virent qu'ils les voyaient, et leurs sourires se figèrent une seconde avant qu'ils ne les fauchent. Une femme les avait suivis en mugissant. Elle était grosse et grasse, et connue des clients de Cheb sous le nom de Tante Mille. Le pistolero la souffla, et elle vola en arrière pour atterrir dans une pose putassière, étalée de tout son long, la jupe retroussée entre ses cuisses. Il descendit les marches et avança à reculons dans le désert. 10 pas, 20. La porte arrière du barbier s'ouvrit à la volée, et ils dégueulèrent à l'extérieur. Du coin de l'œil, il aperçut Sylvia Pittston. Il ouvrit le feu. Ils tombèrent accroupis. Ils tombèrent en arrière, ils basculèrent par-dessus la rambarde dans la poussière. Ils ne projetaient pas d'ombre dans la lumière pourpre et immortelle. Il se rendit compte qu'il était en train de hurler, qu'il hurlait depuis le début. Ses yeux lui faisaient l'effet de roulement à billes fêlées. Les parties lui étaient remontées sur l'estomac. Il avait les jambes en bois et les oreilles en fer. Les pistolets étaient vides et lui crachaient leur chaleur, métamorphosés en un œil et une main. Et il se tenait là, hurlant et rechargeant, l'esprit ailleurs, absent, laissant les mains faire leur petit tour. Pouvait-il lever la main, leur dire qu'il avait passé 1000 ans à apprendre ce tour-là et bien d'autres encore, leur parler de ses armes et du sang qui les avait bénis? Pas avec sa bouche, mais ses mains racontaient leur propre histoire. Alors qu'il achevait de recharger, il les vit alignés en position de tir. Un bâton le frappa au front et des gouttes de sang suintèrent de l'éraflure. Dans les 2 secondes, il serait à portée de main. Au premier plan, il aperçut Kennerly, sa plus jeune fille, âgée de 11 ans ou plus, Soubi, 2 piliers de bar et une pute du nom d'Amy Felden. Il les servit tous, y compris ceux de la rangée de derrière. Leurs corps s'écrasaient lourdement au sol comme des épouvantails. Le sang et la cervelle jaillissaient en gerbes. Frappés de surprise, ils s'immobilisèrent un instant, le grand visage de la masse se différenciant en figures individuelles, perplexes. Un homme décrivit en hurlant un large cercle au pas de course. Une femme aux mains couvertes de cloques leva la tête vers le ciel et se mit à jacasser fébrilement. L'homme qu'il avait vu pour la première fois, assis gravement sur les marches de l'épicerie générale, lâcha Suna un impressionnant paquet dans son pantalon. Il eut le temps de recharger un pistolet. Puis ce fut Sylvia Pittston fonçant sur lui, brandissant un crucifix de bois dans chaque main.
« Diable ! Diable ! Diable ! Tueur d'enfants ! Monstre ! Détruisez l'homme et frères et sœurs ! Détruisez l'intrus, tueur d'enfants ! »
Il tira une balle dans chacune des traverses, faisant éclater des croix. Puis il en logea 4 autres dans la tête de la femme. Elle sembla se replier en accordéon vers l'intérieur et tremblota comme une vague de chaleur. Ils restèrent tous là, à la regarder un moment, comme un tableau vivant, tandis que les doigts du pistolero se livraient à leur tour de passe-passe et rechargeaient. Il avait le bout des doigts qui brûlait et qui grésillait. Des cercles très nets étaient imprimés dans la peau, sur chacun d'entre eux. Ils étaient moins nombreux à présent. Il avait taillé dans leur masse comme la lame d'une faucheuse. Il pensait qu'en voyant la femme morte, il se serait dispersé, au lieu de quoi l'un d'eux lança un couteau. Le manche l'atteignit juste entre les 2 yeux et le renversa en arrière. Ils se précipitèrent sur lui comme un caillou malin qui s'étend. Couché au milieu de ses propres douilles, il déchargea de nouveau. Il avait mal à la tête et de grands cercles marrons lui tournaient devant les yeux. Le premier coup manqua sa cible, mais il en descendit 11 avec le reste. Mais ils étaient sur lui, ceux qui restaient. Il tira les 4 balles qu'il avait pu recharger, puis se retrouva sous les coups de poing, de pied et de poignard. Il en balança 2 qui s'accrochaient à son bras gauche, et roula sur le côté. Ses mains reprirent leur tour infaillible. Il reçut un coup de couteau dans l'épaule, un autre dans le dos. On lui fracassa les côtes, on lui poignarda les fesses avec ce qui devait être un croc de boucher. Un petit garçon se jeta sur lui et lui fit la seule entaille vraiment profonde, en travers du mollet. Le pistolero renversa la tête en arrière. Il se dispersait et le pistolero leur resservit une fournée, répliquant par le feu. Ceux qui restaient commencèrent à battre en retraite vers les bâtiments couleur sable et lézardés, et toujours ses mains poursuivaient leur œuvre comme des chiens trop zélés qui veulent vous faire le coup de la galipette arrière, pas une fois ou deux, non, mais toute la nuit, et ses mains à lui les fauchaient en pleine course. Le dernier d'entre eux réussit à atteindre les marches de la véranda du barbier, et c'est alors que la balle du pistolero le cueillit dans la nuque. Cria l'homme avant de s'écrouler. Ce fut le dernier mot de Tal sur le sujet. Le silence s'abattit de nouveau sur les lieux, remplissant les espaces déchiquetés. Le pistolero saignait d'une vingtaine de blessures différentes, toutes superficielles, sauf celle au mollet. Il la banda avec un lambeau de sa chemise, puis il se redressa et passa en revue l'étendue du massacre. Les cadavres s'étalaient en une traînée serpentant et zigzagant comme un sentier, depuis la porte de derrière du barbier jusqu'à l'endroit où ils se tenaient. Ils étaient étendus dans toutes les positions imaginables. Aucun d'eux n'avait l'air de dormir. Il suivit la piste de la mort, comptant les corps au fur et à mesure. Dans l'épicerie, un homme était affalé à terre en serrant tendrement de ses deux bras le pot à bonbons fêlés qu'il avait entraîné dans sa chute. Il se retrouva à la case départ au milieu de la rue principale déserte. Il avait abattu 39 femmes, 14 femmes et 5 enfants. Il avait tué tout seul. Une odeur écœurante lui vint aux narines avec le premier souffle de vent sec et vibrant. Il le suivit, leva les yeux et hocha la tête. Le corps en décomposition de Nort était déployé, les bras en croix, en haut du toit de planche de chez Cheb, crucifié avec des chevilles en bois. Les yeux et la bouche étaient ouverts. Sur la chair de son front crasseux, on avait imprimé une grosse marque violacée, celle d'un sabot fendu. Le pistolero sortit de la ville. Sa mule broutait dans une touffe d'herbe à une cinquantaine de mètres, le long de ce qui restait de la route de la diligence. Le pistolero la ramena jusqu'à l'écurie de Canarly. À l'extérieur, le vent jouait un air irrégulier. Il commença par attacher la mule et retourna au troquet. Il dénicha une échelle dans la pentille du fond et monta sur le toit délivré Nort. Son corps était plus léger qu'un fagot. Il le fit basculer en bas, dans le commun des mortels, ceux voués à ne mourir qu'une seule fois. Puis, il retourna à l'intérieur, mangea des steaks, but 3 bières tandis que la lumière déclinait et que le sable commençait à voler. Cette nuit-là, il dormit dans le lit qu'il avait partagé avec Ali. Il ne rêva pas. Le lendemain matin, le vent était tombé et le soleil avait retrouvé son éclat vif et distrait. Les corps avaient dérivé vers le sud comme des amarantes poussées par le vent. En milieu de matinée, après avoir pansé toutes ses blessures, lui aussi changea de décor.